ou à l'oral sur nos sites. Si vous êtes dans la salle, veuillez parler d'une voix forte et claire, proche du micro, debout. Pourquoi quatre questions sont précisément posées la nuit de Pâques? La logique fait que nous demandons quand l'homme pose-t-il des questions? C'est quand il a un manque. Il demande « Pourquoi ai-je à souffrir de ne pas avoir ce dont j'ai besoin ?» Il se plaint au Créateur et demande « Pourquoi dois-je souffrir ?» Mais quand tout va bien pour une personne, quelles sont les questions à se poser quand elle se sent libre ? Qu'elle n'est pas esclave de quoi que ce soit, mais quand elle sent que ce qu'elle a ne la fait pas souffrir, ce qui lui donne la possibilité de se demander pourquoi. Par conséquent, nous devrions comprendre pourquoi posons-nous précisément des questions la nuit de Pâques, qui est la fête de la liberté. Elles sont appelées quatre questions. C'est-à-dire quatre fois pourquoi, précisément quand l'homme ne manque de rien. Selon le Hari, la nuit de la Pâque est plus complète que la veille du Shabbat. Il dit que la veille de Shabbat, il y a une ascension de Malchut à Mochin de Neshama. Alors que la nuit de Pâques, il y a une ascension de Malchut à Mochin de Chaya, comme le jour de Shabbat. Ainsi, nous devons comprendre pourquoi posons-nous précisément des questions lors d'un moment de plénitude. Il y a certainement beaucoup d'explications et nous l'interpréterons dans le travail. Nous savons que le travail qui nous a été donné dans la Torah et les mitzvot est qu'à travers elle, nous nous corrigeons pour mériter de recevoir plaisirs et délices. Puisque c'est pour cela que l'homme fut créé. Car nous savons que le but de la création est de faire du bien à ses créations. Cependant, pour éviter la honte à la réception des plaisirs, puisque chaque branche veut ressembler à sa racine, et puisque la racine donne aux créatures, il y a une disparité de forme entre le donneur et le receveur, ce qui nous fait honte. Par conséquent, pour le corriger, un tzimtzum, une restriction, ainsi que Esther, une dissimulation, ont été placés sur la providence supérieure. Ainsi, par le tzimtzum et la dissimulation, un endroit fut fait où nous sommes si éloignés du Créateur qu'il nous cause d'avoir très peu de compréhension quant à sa providence sur ses créations. À ce sujet, il est écrit dans Talmud et Ser Sefirot où il dit que si la providence était révélée et que, par exemple, celui qui mangeait quelque chose d'interdit s'étoufferait instantanément et celui qui accomplirait une mitzvah en retirerait immédiatement un plaisir merveilleux. Comme les plus grands plaisirs de notre monde physique. Quel imbécile envisagerait de goûter quelque chose d'interdit en sachant qu'il en mourrait immédiatement? Ou est-ce qu'il attendrait de recevoir un grand plaisir physique au moment où il l'aura en main? Ainsi, le tzimtzum et la dissimulation, qui ont été faits pour corriger la honte, engendrent tous les efforts et l'éloignement du Créateur. Il s'ensuit que le tzimtzum et la dissimulation ont été faits en faveur de l'inférieur. Il ne sert donc à rien de s'interroger sur la providence. Pourquoi le Créateur nous traite-t-il tel qu'il nous semble, puisque nous ne voyons pas le bien et nous souffrons? Pourquoi le Créateur nous traite-t-il comme il nous semble, car nous ne voyons pas le bien et nous souffrons en exil, dans la pauvreté, et ainsi de suite. En d'autres termes, tout le monde se plaint de la raison pour laquelle le Créateur se comporte avec une providence cachée à notre égard, qu'elle n'est pas bonne. Pour cette raison, il est interdit de diffamer sa providence, la manière dont il se comporte avec les créatures. Mais nous devons croire avec la foi au-dessus de la raison que cela doit être. Mauvaise se passe entre l'homme et son semblable. Mais en vérité, la diffamation est avant tout entre l'homme et le Créateur. Comme il est écrit, Moïse a vu l'acte du serpent qui a diffamé son Créateur. Comme il est dit, car Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Avec ce qui précède, nous pouvons voir pourquoi la diffamation est la pire des choses. C'est parce que la diffamation vient principalement du serpent qui a diffamé le Créateur en disant « Le Créateur vous a ordonné de ne pas manger de l'arbre de la connaissance, mais de le garder dissimulé et caché. » Le serpent lui en a parlé. « Tu ne dois pas écouter ce que te dit le Créateur, que l'arbre de la connaissance doit demeurer dissimulé aux inférieurs. » Mais son argument était que tout devrait être visible. Telle était la diffamation du serpent. Il s'avère qu'il parlait de la providence, que la conduite du Créateur avec les créatures, la providence non révélée, n'était pas bonne. Mais en vérité, la dissimulation n'était que pour que les créatures puissent recevoir le plaisir et les délices sans honte. Cela ne peut se faire que lorsque les créatures reçoivent tout pour le Créateur, ce qui signifie que toute la réception ne sera que afin de donner. Ainsi, la diffamation du serpent n'est pas sur un détail, mais il a parlé de toute la correction qui a été faite sur Malchut pour que les inférieurs qui s'étendent d'elle puissent atteindre la dvekut, l'adhésion, appelée l'équivalence de forme, par laquelle il y aura la correction qui lui permettrait de recevoir le plaisir et les délices sans aucun désagrément, appelé honte. À cause de cette correction, la Torah et les mitzvot nous ont été donnés pour pouvoir sortir de l'amour de soi, qui est la séparation d'avec le Créateur, et atteindre l'équivalence de forme. Comme on dit nos sages, j'ai créé le mauvais penchant, J'ai créé la Torah comme une épice. D'après la diffamation du serpent, il y aura une providence visible, c'est-à-dire que tout sera révélé, même si le Créateur a dit explicitement à Adam, mais de l'arbre de la connaissance, tu ne mangeras pas. Mais ce discernement doit être couvert. Et ce n'est qu'à la réparation finale, Gmar Tikkun, qu'il sera possible de clarifier ce discernement. À ce sujet, le serpent lui a dit de ne pas écouter la voix du Créateur. En d'autres termes, le Créateur n'a pas fait cela, n'aurait pas fait cela en faveur d'Adam, que la providence du Créateur sur les créatures, le bien qui fait le bien qui fait le bien, n'est pas révélée pour d'autres raisons. Il s'avère que la diffamation du serpent est... Créateur soit hérétique. Que son cœur penche vers l'idolâtrie. Après tout, le Créateur lui a parlé. Alors, comment peut-il y avoir une erreur au point que son cœur penche vers l'idolâtrie? Comme nous l'avons dit plus haut, le Créateur lui a dit que l'arbre de la connaissance devait être caché et ne pas être montré avant le Gmar Tikkun, réparation finale. Quand le serpent vint à lui et lui dit de ne pas écouter la voix du Créateur, que ce grand plaisir se trouvait dans l'arbre de la connaissance, et que le Créateur le lui cachait, il prit à cœur la diffamation du serpent. C'est cela qu'on appelle être hérétique. Rashi interpréta que son cœur penchait vers l'idolâtrie, c'est-à-dire que son cœur penchait vers ce que lui disait le serpent, qu'il valait mieux qu'il y ait une providence visible dans le monde, comme le serpent le lui conseillait. C'est ce qu'on appelle hérétique, celui dont sa providence ne trouve pas grâce à ses yeux. Cela signifie qu'il pensait, selon l'avis du serpent, que si l'arbre de la connaissance était révélé et que la providence était visible, beaucoup s'engageraient dans le travail sacré, pour la raison évoquée ci-dessus que tous observeraient la Torah et les mitzvot, puisque tout cela serait revêtu dans l'intellect, dans la raison, et non pas parce que tout doit être au-dessus de la raison. En d'autres termes, l'arbre de la connaissance signifie que tout était découvert dans la raison. Et c'était là le commandement de s'abstenir de manger. C'est-à-dire que notre travail envers le Créateur devrait être au-dessus de la raison et non pas dans la raison. Bien qu'il soit raisonnable de penser que si tout était revêtu de la raison, les serviteurs du Créateur augmenteraient. C'est le sens de la diffamation du serpent, qui parlait mal de la providence, puisque c'est le Créateur qui a fait que servir le Créateur se fait avec la foi au-dessus de la raison. Cela ne signifie pas que le Créateur n'aurait pas pu tout faire dans la raison, mais nous devons croire, même si nous ne comprenons pas, que cette conduite est la meilleure. Ainsi, le Baal HaSulam a dit que le Créateur a choisi la voie de la foi au-dessus de la raison parce que le Créateur sait que c'est le meilleur moyen pour les inférieurs d'atteindre le but appelé Dvekut Hashem, l'adhésion au Créateur, qui est l'équivalence de forme appelée recevoir afin de donner. L'introduction au livre Panim Meirot ou Masbirot, en ce qui concerne notre travail, nous devrions interpréter que celui qui diffame la providence en disant qu'il ne veut pas croire que sa providence sur les créatures est bienveillante et que c'est comme cela que l'on croit au-dessus de la raison. Cependant, une personne dit, si la providence était visible, si je pouvais voir avec mon esprit que le Créateur donne l'abondance à toutes les créations, et si cela était dans la raison, ce n'est qu'ainsi que je pourrais observer la Torah et les mitzvot. Cela vient à cause du péché de l'arbre de la connaissance. Lorsque l'homme veut précisément aller dans la raison et ne pas croire au-dessus de la raison. Par conséquent, lorsqu'il ne croit pas que le Créateur est bon et qu'il fait le bien, alors il diffame le Créateur. Cette racine a commencé lorsque le serpent diffamait le Créateur vis-à-vis d'Adam Arishon. Une personne qui veut aller dans la raison est appelée péché. La morale, c'est que nous ne savons pas comment apprécier l'ascension. C'est-à-dire que nous ne comprenons pas la valeur d'un seul moment où nous avons la force de croire en le Créateur. Ni d'avoir une certaine sensation de la grandeur du Créateur. En état d'ascension, nous désirons nous annuler devant le Créateur, sans explication ni raison, telle une bougie devant une torche. Naturellement, nous ne pouvons pas tirer de plaisir que le Créateur nous a rapprochés et nous a donné une certaine proximité, dont nous devrions retirer de la joie, ainsi qu'une élévation. Mais, puisque nous n'avons pas l'importance de l'apprécier, nous ne pouvons pas nous en réjouir, si ce n'est en fonction de l'importance, telle qu'expliquée dans cette histoire. C'est pourquoi l'on nous a donné des descentes, yéridot, pour pouvoir apprendre l'importance des aliotes, des ascensions. Comme il est écrit, comme la supériorité de la lumière sur l'obscurité. C'est précisément par les descentes que l'homme peut connaître et apprécier les ascensions. Et ensuite, il peut apprécier les ascensions et venir à sentir qu'elles sont notre vie et la durée de nos jours. Mais quand on ne connaît pas le besoin de la foi, parce qu'on pense que s'engager dans la Torah et les mitzvot est suffisant pour être considéré comme un serviteur du Créateur, alors on ne nous donne pas de descente d'en haut afin d'apprécier les ascensions. Leur travail se fait à l'extérieur. Ils n'ont pas l'intention d'entrer à l'intérieur. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas l'intention de s'annuler complètement devant la Kdusha, la sainteté. Et saint signifie retiré et séparé de lui-même. Comme il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Et à ce moment-là, il n'y a que l'autorité du Créateur, puisque l'inférieur veut s'annuler devant la racine. Et tout ce qu'il voit, c'est que cela vaut la peine de vivre seulement pour le Créateur. Pour qu'une personne soit dans un état où elle ne veut vivre que pour donner satisfaction au Créateur, elle doit se pourvoir d'une grande foi en la grandeur du Créateur, pour que cela vaille la peine de s'annuler pour le Créateur. La foi qu'elle a acquise... nécessaire. Cependant, ceux qui veulent travailler en raison de l'importance du Créateur, qui ont toujours besoin d'augmenter la foi en l'importance et en la grandeur du Créateur, que seule l'importance et la grandeur du Créateur les obligent à observer la Torah et les mitzvot afin d'atteindre Dvekut Hashem, l'adhésion au Créateur. Ces personnes doivent toujours supposer et apprécier la grandeur du Créateur. Elles doivent toujours apprécier que si elles ont une certaine prise sur la spiritualité, c'est parce que le Créateur les rapproche. Alors qu'elles-mêmes sont complètement incapables de faire quoi que ce soit, à moins qu'elles ne voient les qu'en découlent des bénéfices pour elles-mêmes. Il s'avère que le travail essentiel et de s'annuler soi-même, et c'est contre nature. C'est seulement par son salut qu'elles peuvent y arriver. Ainsi, pendant l'ascension, une personne pense que c'est déjà naturel, et que maintenant, elle n'a pas du tout besoin de l'aide du Créateur. Par conséquent, une correction fut faite, appelée descente, Yerida, où on lui montre toujours la taille de sa force, ce qu'elle peut faire par elle-même, ainsi que comment elle le voit. Mais quand elle est jetée hors de son état, où elle pensait déjà être un homme, non pas une bête qui travaille pour elle-même, soudain, elle ne peut même pas sentir qu'ils veulent la jeter dans cette bassesse dans laquelle elle se découvre par la suite. Pourtant, pendant la descente, l'homme ne voit pas qu'il commence à descendre. Mais lorsqu'il descend, il reste inconscient. Après un certain temps, il reçoit aussi de l'aide d'en haut. Et on lui dit, sache que maintenant, tu es en descente. Avant qu'on le lui dise qu'il est inconscient, il n'en sait rien. Cependant, l'homme doit croire qu'il en est ainsi, puisque le savoir ne vient pas tout seul. Mais l'homme doit savoir que ses descentes lui ont été données afin d'apprendre comment il est possible d'apprécier l'état d'ascension. Mais pendant la descente, il ne peut rien en apprendre. Cependant, pendant l'ascension, il peut faire un véritable examen de conscience et dire « Maintenant, je suis venu dans la foi, et cela m'est venu du Créateur. Sinon, je tomberais immédiatement dans l'amour à des fins personnelles. » S'il ne fait pas cet examen, et qu'il ne remercie pas le Créateur de l'avoir rapproché, alors il est immédiatement rejeté. Il s'avère qu'il est impossible d'obtenir un réel plaisir de s'approcher du Créateur si l'on ne sait pas l'apprécier comme dit ci-dessus, comme la supériorité de la lumière sur l'obscurité. Il s'ensuit que pour que les créatures reçoivent le plaisir et les délices et qu'elles les ressentent, ces descentes étaient toutes nécessaires. Elles sont appelées exil. Et ceci est appelé la Shrina en exil, divinité. Ou bien... la Shrina dans la poussière. Ce n'est qu'ainsi que l'homme aura les kelim récipients pour ressentir le plaisir et les délices. Après ce qui précède, nous pouvons comprendre pourquoi, précisément au moment de la liberté, qui est la nuit de Pâques, il y a une parfaite plénitude, Shlemut, comme le dit le Hari, que Malchut a la même Gadlut que Malchut de Mohin de Chaya, et c'est le cas la nuit de Pâques. La réponse est que c'est précisément pendant une ascension, quand on pense aux descentes, qu'on a la force de trouver l'importance des ascensions. Sinon, cela s'apparente à celui à qui l'on donne quelque chose qui vaut une fortune et qui l'utilise et l'apprécie comme si cela ne valait presque rien. Ainsi, précisément au moment de la liberté, il est possible de poser ces questions, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de questions, mais nous avons besoin de questions pour comprendre les réponses, comme l'a dit le Baal HaSulam à propos de ce qui est écrit « Maintenant, parle aux oreilles du peuple et que chacun emprunte à son prochain. » Rashi interprète qu'il les avertit que le juste ne dira pas « Ils les serviront et ils y trouveront. » Et il les a préservés, et ensuite ils sortiront avec de grands biens. Et il ne les a pas préservés. Il y a une question. Si le Créateur voulait donner de grandes possessions au peuple d'Israël, le Créateur ne pouvait-il pas les lui donner? Mais il a dû dire au peuple d'Israël de tricher et d'emprunter aux Égyptiens des récipients d'argent et d'or. La réponse est que lorsque le Créateur dit à Abraham « Pour te donner cette terre en héritage », Abraham demanda « Comment saurais-je que j'en hériterai ?» Et il dit à Abraham « Sache avec certitude que ta semence sera étrangère dans un pays qui n'est pas le sien, et qu'ensuite elle en sortira avec de grandes possessions. » Il demanda, « Que voyons-nous dans la réponse du Créateur à la réponse d'Abraham, comment saurais-je qu'en étant dans une terre qui n'est pas sienne, c'est-à-dire en exil, Abraham était déjà certain qu'ils hériteraient de la terre. Il a dit que puisque il n'y a pas de lumière sans clé, c'est-à-dire pas de satisfaction sans manque, et puisqu'Abraham a dit au Créateur qu'ils ne voyaient pas qu'ils auraient besoin de si grande lumière appelée la terre d'Israël. Le Créateur lui a dit qu'en étant en exil, ils demanderont au Créateur de les sortir de l'exil. Comment les en sortirait-il? Seulement avec de grandes lumières, puisque la lumière en elle le ramène vers le bien. Ainsi, ils auront déjà besoin des grandes lumières. Il a expliqué que c'est la raison pour laquelle le Créateur a dit d'emprunter des kélim aux Égyptiens, des récipients, signifiant de prendre les questions des Égyptiens, mais comme un prêt, afin de recevoir les lumières et pour ensuite leur rendre les kelim. En d'autres termes, ils ont pris les questions pour comprendre les réponses, comme cela a été dit plus haut, qu'il est impossible de comprendre la lumière si ce n'est qu'à partir de... Non, l'étape suivante apparemment n'existe pas. Ce n'est pas clair ce qu'est l'état suivant. Mais pour la première fois dans sa vie, une personne comprend que son chemin est fait de questions et des réponses du Créateur et aussi des questions du Créateur et qu'il dépend de la personne de les collecter et une après l'autre demander que chaque question lui soit révélée.
Burada bir mantık dahili yolu ve mantık ötesi yolu bize seçenek olarak verilmiştir.
Peki kişi nasıl? Nous donne le choix entre au-dessus de la raison et dans la raison. Comment est-ce qu'une personne peut-elle maintenir son cœur, le protéger de mauvais états? Comme c'est dit ici qu'il était hérétique et pensait comme ça. Il est incorporé de cet état, et c'est pourquoi il est dit qu'il peut les entendre. Il est incorporé, il passe par ces états, il est immergé en eux, incorporé en eux, et plus tard, à partir de ces états négatifs, il commence à demander plus. Un citron, j'ai un goût, quelque chose que je me décris. Alors, qu'est-ce qui peut m'aider, un tube d'image ou de pensée, pour pouvoir demander la foi? Qu'est-ce que ça veut dire de demander la foi? Ça veut dire que tu es dans un état tel que celui où tu te trouves actuellement, mais légèrement différent, et tu es rempli par la lumière de la foi. Quoi? Différent dans quelle direction? Qu'est-ce que ça veut dire d'être rempli par la lumière de la foi? Je ne sais pas. Si tu n'es pas plein, alors tu ne sais pas ce que ça veut dire d'être rempli par cela. C'est ça? Alors, je dois être supporté des souvenirs que j'ai ou quand j'ai senti quelque chose? Je ne sais pas, tu dois demander au Créateur qu'il te rapproche de la foi. Bon. Ben, c'est tout. Tu dois te connecter plus aux amis afin d'être parmi eux et de là recevoir, être impressionné par le besoin de la foi qu'ils ont. Merci. Oui. Quelle est la différence entre les questions et les calomnies? Tu poses des questions parce que tu penses que, en les résolvant, en y répondant, tu pourras atteindre le but. C'est pour cela que les questions sont légitimes, que tu les élèves vis-à-vis du but. Mais avec les questions aussi, une personne est à l'intérieur de sa raison. Alors, ça, ce sont les différences entre la calomnie qu'il fait dans la raison et l'état des questions. Les questions, il y a des questions qui proviennent de d'un désir négatif. Mais il y a des questions qu'une personne doit résoudre ou obtenir des réponses pour obtenir un état nécessaire. Mais il s'agit de toutes les questions que nous demandons la nuit de Pâques, ce qui apparemment nous élève en un lieu très élevé, oui. Et à l'opposé de cela, il décrit un état où une personne a un manque de foi. Il pose des questions, cela reste à un endroit très bas. Alors quelle est la différence entre ces questions-ci et ces questions-là? La différence est essentielle, qualitativement essentielle. Qu'est-ce que la personne veut-elle recevoir avec ses questions? Soit il demande de l'aide du Créateur, qui devrait advenir selon son degré, ou bien il rate et il ne demande pas nécessairement. Alors, les questions doivent être... Aussi les questions elles-mêmes. Qui est le Créateur que je dois écouter sa voix? Quel est ce travail pour toi? Et à travers ces questions, nous accrocher à cet état. Parce que tu te ressens dans une ascension. Dans un état spécial.
די מהר, יש מיצוי.
כן.
ואז הוא אומר גם ש...
Pourtant, c'est ressenti qu'on a épuisé un état assez rapidement. Oui. Et il dit aussi que le Créateur nous abaisse afin que nous recréions sa grandeur, afin que nous soyons en mesure de travailler pour lui, pour son bénéfice. Oui. Alors, qu'est-ce que je rate pendant la descente, aussi l'ascension? On oublie le Créateur. Dans une certaine mesure. Et alors, la force supérieure qui fait tout disparaît vis-à-vis des yeux de la personne et la personne ne sait pas à quoi s'accrocher, ce qu'il devrait atteindre, où il devrait se diriger. Qu'est-ce que ça veut dire de faire pour nous-mêmes la grandeur du Créateur pendant la descente? Quel est ce travail? Comment le fait-on? Parlez entre vous, et c'est suffisant pour le Créateur qu'il soit révélé, parce que quand nous parlons, il y a un désir entre nous d'atteindre le Créateur, et tous et chacun veut se connecter aux amis, et ensemble avec eux, en arriver au manque correct pour la révélation du Créateur. Et c'est tout, c'est suffisant. Dernière question, puisque toujours nous recherchons la qualité du don et de l'amour, c'est cela qui nous manque constamment. Et le Créateur lui-même, c'est lui qui organise tous ces états, c'est lui le but, apparemment l'oublions. Je ne sais pas, apparemment il nous manque quelque chose qui n'est pas exactement à lui, de lui donner à lui, mais plutôt nous aimons être comme lui, lui donner, l'aimer. Alors quel est ce manque exactement? Que le manque, c'est lui, la connexion avec lui, le don à lui. Apparemment on n'atteint pas ce manque-là.
אני חושב שמה ש
Comment y arriver? Je pense que ce qui est requis de la personne, c'est de pointer son doigt. Naturellement que c'est lui qui nous manque. Le Seigneur, notre Dieu, et nous souhaitons l'atteindre. L'adhésion et l'équivalence de forme. Encore? Comment on arrive à ressentir que ça, c'est le point de vue du Créateur, que c'est spécifiquement le Créateur qui a choisi pour nous ce chemin de au-dessus de la raison, ainsi que la dissimulation et tout ce qu'on voit, et que c'est exactement ça, ce que lui a choisi pour nous, que c'est la meilleure chose possible, comme l'écrit Rabbi dans l'article, que voilà, celui-ci a dit la même chose. Nous serons en mesure de mieux le ressentir en demandant et en recevant une réponse. Ou cette réponse est vraiment la description pour nous d'une réponse du Créateur. Alors, est-ce qu'on peut demander au Créateur qu'il ouvrira pour nous, que vous avez choisi cette voie pour nous, on peut le demander? Oui, oui. Alors maintenant, quel est ce péché de l'arbre de la connaissance à cause duquel nous ne pouvons pas être dans la dissimulation, à cause duquel nous ne voulons pas passer par des corrections? En fait, c'est notre penchant du cœur que nous ne voulons pas toute la correction que le Créateur a préparée pour nous à cause du péché de l'arbre de la connaissance. Alors depuis lors, pour nous, c'est difficile de marcher sur ces voies. Alors, quelle est cette chose qui a eu lieu, ou quelle est cette chose? C'est la racine de tous nos problèmes. C'est notre ego qui ne se repose pas, qui ne sort jamais de nous, mais plutôt au contraire. Il rend cela constamment plus difficile pour nous de le détecter. Mais j'ai senti qu'il y a quelque chose là, parce que c'est comment. Avant, apparemment, tout allait bien. Et à partir du moment où quelque chose s'est ouvert à lui, et alors on apporte ce bagage jusqu'à ce jour, oui. Alors, qu'est-ce qui s'est passé là, tout à coup, que quelle est cette chose, cette action, cette création, que tout à coup nous sommes incapables d'aller dans la foi et de prendre ces corrections sur nous? C'est à cause de cette qualité entre nous, appelée le serpent, que nous recevons une réponse intellectuelle et nous en sommes satisfaits. Est-ce qu'il y a une force qui nous convainc? Quelle est cette force avec laquelle on doit traiter, qu'on doit atteindre la correction sans foi? Quelle est cette force? D'où est-ce qu'elle vient? Tout vient du Créateur. Et nous sommes au milieu, entre ceci et cela. Pourquoi est-ce qu'il est dit que c'est lié à « aime ton prochain comme toi-même » La calomnie, que Rabash ajoute, que la calomnie aussi, vis-à-vis de « aime ton prochain comme toi-même », enfin, en quoi est-ce que ce problème est lié à « aime ton prochain comme toi-même » C'est parce que c'est en fait la condition principale. Que si nous étions capables de le maintenir, alors nous ne ressentirions pas toutes les autres questions. En fin de compte, ce n'est que à partir du fait que nous ne pouvons pas maintenir aime ton prochain comme toi-même. Merci. Oui, Doudi. J'ai entendu que nous devons nous connecter plus aux amis pour pouvoir être impressionnés par le besoin de la foi qu'ils ont. Oui. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Comment est-ce qu'on reçoit la foi? Parce que comme chacun a besoin de foi, mais sous une forme différente. Et ainsi, s'ils se connectent entre eux, s'ils connectent les besoins de chacun, ils finissent avec un manque complet, et avec cela, ils s'adressent au Créateur. Et donc, ça les aide à se connecter entre eux. Chacun a un besoin de foi d'une façon différente? Oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas ce que ça veut dire. Chacun ressent ce besoin d'une façon différente. Et la connexion entre nous, qu'est-ce que ça, de quoi est-ce que c'est composé? Ça nous donne l'un dans l'autre le besoin général. Qu'est-ce que c'est que le besoin de foi? Le besoin de foi, c'est la force commune avec laquelle donner au Créateur. Alors on ne peut atteindre la foi qu'avec les amis. Oui, tu ne peux pas faire ça. Et cette foi, c'est la...
רב, הוא כותב פה באמצע מאמר מה שאין כן, אלו אנשים שהם רוצים לעבוד מטעם חשיבות
הבורא. Omnud l'article l'écrit.
שהם צריכים תמיד להתגבר באמונת חשיבות
וגדלות הבורא. Ce peuple qui souhaite travailler du fait de l'importance du Créateur, qui augmentera toujours la foi et la grandeur du Créateur. Seulement la grandeur et l'importance du Créateur l'oblige à observer la Torah et les mitzvot afin d'atteindre l'adhésion au Créateur. Écoute Hachem. Ce peuple veut toujours assumer et valoriser la grandeur du Créateur. Donc, cela nous donne une description de l'intention correcte. Et ensuite, quand je regarde que par notre travail, je vois que nous parlons beaucoup de la connexion entre nous, de l'abondance entre nous, de la grandeur des amis, peut-être la grandeur des chemins. Mais comment est-ce que je connecte ça à la grandeur et l'importance du Créateur, comme il l'écrit ici? Aide-moi à avoir la connexion parce que je comprends que vous nous enseignez, vous nous avez enseigné pendant des années comment travailler sur la connexion et l'importance entre nous. Et ici, il dit que tout doit marcher du fait de l'importance du Créateur. Oui, alors comment est-ce qu'on combine ces deux choses? Bah, quel est le but? Le but est d'atteindre l'Ishma, l'adhésion au Créateur. Comment est-ce que je vois à l'intérieur de ce lishma le Créateur, sa grandeur, son existence et moi-même que je m'approche de lui? Oui, c'est une question, c'est ça que je demande.
Oui.
Nous, la réponse, apparemment, et dans le fait, nous entendons depuis des années, c'est pas pour rien qu'on l'enseigne, travailler sur la connexion entre vous. Moi, j'ai ce raccourci dans mon cerveau entre ces deux choses, donc j'essaie de résoudre, parce que pour moi, c'est clair que ils sont liés, mais je ne peux pas comprendre comment, de quelle façon. C'est le huitième à partir de la fin, si j'ai bien compris. Mais ceux qui veulent travailler en raison de l'importance du Créateur, qui ont toujours besoin d'augmenter la foi en le Créateur et l'importance et la grandeur du Créateur, que seule l'importance et la grandeur du Créateur les obligent à observer la Torah et les mitzvot afin d'atteindre Dvekut Hashem. Ces personnes-là doivent toujours supposer et apprécier la grandeur du Créateur. Elles doivent toujours apprécier que si elles ont une certaine prise sur la spiritualité, c'est parce que le Créateur les rapproche. alors qu'elles mêmes sont complètement incapables de faire quoi que ce soit, à moins qu'elles ne voient qu'en découlent des bénéfices pour elles-mêmes. Il s'avère que le travail essentiel est de s'annuler soi-même, et c'est contre nature. C'est seulement par le salut du Créateur qu'elles peuvent y arriver.
Barur. Le rappel toi et le tatsumon.
Annuler ses bénéfices pour elle-même est là. Et s'il annule, le Créateur peut se révéler toute mesure nécessaire ou ce qu'il désire. D'accord?
Вы вначале сказали, что падения и подъемы должны проявляться одновременно. Можно ли
увеличивать цели? Ensemble, c'est-à-dire que le travail pendant la descente est d'agrandir l'importance. Plus on est dans des montées descentes. On doit apprécier dans tous ces états ce qui se révèle à nous.
Buenos días, Rab. Buenos días, Mundial. De acuerdo al último párrafo del texto, ¿qué significa?
Selon le dernier paragraphe dans l'article, il dit que on ne peut pas comprendre la lumière que de l'obscurité. Toutes les questions sont dans la liberté, c'est-à-dire que les questions viennent en liberté, où on peut trouver, on peut voir l'image réelle et nous et le Créateur dans la bonne attitude. Bon. Donc cette situation est appelée liberté. Encore une fois, qu'est-ce qu'il a dit? Cette action appelée emprunter les kélim, comment le réaliser dans la dizaine? On se connecte, on clarifie quel est le plus grand manque. Et avec ce manque-là, on se dirige vers le Créateur et on exige une connexion. Dans cette connexion, on reçoit des forces, des compréhensions. On organise notre cli. Je serais plus adapté à se connecter au Créateur, et là on forme le cli au fur et à mesure. L'homme a l'annulation du soi. Le travail de l'homme de se voir sous l'influence peut-être des milliers de forces. Mais finalement, il doit, de cet état de ses forces connectées au Créateur, et comprendre que le Créateur est la vraie source, et c'est lui, le Créateur, qui est toujours avec l'homme. C'est que lui qui se trouve prêt à donner, aider, sauver l'homme. En priant au Créateur, il peut arriver à cette connexion et sortir de la profondeur de son ego. permettra cette annulation. Je me dirige afin de donner au groupe à ma dizaine et qu'il m'aide à sortir de moi-même et être pas afin de recevoir mais afin de donner, connecté avec eux comme un seul homme, un seul cœur, et ainsi une unité, une dizaine indépendante.
Thank you for this article. It's very beautiful and it talks about the power of faith.
Merci pour cet article, c'est très beau. Il parle de la foi.
I was left with many impressions, but one that stuck.
J'ai beaucoup d'impressions. Mais surtout,
we talk about connection all the time.
This article shows. On parle toujours de connexion. Et l'article nous montre qu'on ne peut pas se connecter sans la foi. On nous donne constamment des descentes pour voir qu'on n'a aucune force afin de donner.
When we experience the descent, we have to cry to the Creator to give us.
Et quand on ressent cette descente, on doit crier que le Créateur nous donne la force afin de donner. Et arriver à donc la foi et la connexion. Ma question est, est-ce que la foi est un moyen à travers lequel on atteint le but de la création? La foi, ce n'est pas un moyen d'atteindre le but de la création, mais c'est une qualité qu'on atteint et qu'on révèle le but de la création. La foi, ce n'est pas un moyen, mais c'est la qualité même, la révélation du but de la
création.
Se souvenir et oublier, garder et perdre. Pendant la période d'exil considérée comme le monde de Nukva, le travail consiste à préserver. Celui qui commet des erreurs dans ce travail peut perdre ce qui lui a été donné. Et l'adhésion dans ce monde se fait par la force de la préservation. L'embellissement du pouvoir de préservation se fait par l'élévation des sentiments, tout comme par l'élévation de sa perfection et de la force de sa dvekut. Mais à l'avenir, il n'y aura plus de crainte de perdre ou de vol, car la mort sera engloutie pour toujours. Et ici, le travail consiste à se souvenir. Bien qu'une seule forme aurait dû suffire, la nature du corps fait qu'il se lasse de la même forme. C'est pourquoi les formes doivent être déshabillées et habillées l'une après l'autre, afin que le corps ait l'impression d'avoir une forme différente à chaque fois. Cela augmente le désir. Cela ressemble au fait de couvrir les yeux du cheval pour qu'il ne se fatigue pas pendant qu'il tourne en rond autour de la meule. Ceci est fondamental et grave, car c'est simple. Pour le travailleur, sa volonté est digne de la plus grande louange. Il est également connu que plus un travail est proche de la nature, meilleur il est. La règle est la suivante. Si chez deux amants, l'amour de l'un des deux s'accroît jusqu'à un degré parfait et complet, sous-entendu de manière naturelle et parfaite, alors toute la force de l'amour mourra chez l'autre. Bien que ce dernier voit manifestement dans son esprit que l'amour de son bien-aimé augmente, ses capacités réelles de répondre à cet amour n'augmenteront pas du tout. Bien au contraire, en fonction de la sensation sûre de l'amour de l'autre, les sentiments d'amour en lui-même mourront peu à peu, car il n'y a plus de peur en lui, parce que son amour absolu est là pour lui. Pour cette raison, la caractéristique de la spiritualité sera résolue et annulée par l'amour de l'objet. Un signe avec la main, qu'est-ce que tu veux? On est un décevoir qui, par nature, pense qu'à lui-même. Et on, pour corriger le désir de recevoir, il faut construire tout un système qui soulève le désir afin qu'il soit plus ou moins indépendant et ressentir qui lui donne comment, indépendamment de sa nature, autrement. Il fera des actions de sa part. C'est-à-dire, on doit voir le désir de recevoir n'est pas digne d'atteindre l'attribution de ressentir celui qui donne. Ce qui est en dehors de lui. En dehors de lui, c'est des qualités opposées à les siennes. C'est parti, continue. Il ne fait aucun doute que la volonté du Créateur est de faire connaître son amour. Cependant, il veut aussi nous laisser l'espace pour repousser les limites de l'amour. Ce sont deux choses opposées, car lorsque son amour nous est révélé, il a une forme contraignante comme un amour naturel et parfait. C'est pourquoi il n'y a alors plus du tout de place pour le travail d'élargissement de l'amour. Car l'amour fidèle et parfait ne souhaite pas de récompense en échange de son amour. Comme il est écrit, si quelqu'un est dans son droit, que peut-on lui donner? Et à l'inverse, le sujet aimé devait sentir que son amant a un désir pour une récompense en contrepartie de l'amour, alors ce lieu d'amour serait entaché et présenterait des défauts. En effet, s'il y a un désir de récompense, l'absence de récompense modifierait son amour en conséquence. Ainsi, l'amour n'est pas absolu, c'est-à-dire pas parfait et naturel, mais conditionnel. Si la condition était supprimée, alors l'amour le serait aussi, comme dans une énigme dans la paix, et la paix disparaît. Il est prouvé que le maudit ne peut s'attacher au béni comme il est écrit, il donnera la sagesse aux sages. Et le service, dans l'ajout et l'extension de la perfection, ne se rapporte nullement à celui qui présente des manques dans son travail, mais à l'ouvrier véritablement parfait. Or, pour l'ouvrier parfait, il semble qu'il n'ait désormais plus du tout de place pour le travail. C'est le sens de se souvenir, comme si quelqu'un disait à son bien-aimé, voici un sac rempli de bijoux pour te montrer mon amour. Ainsi, le sujet aimé peut maintenant s'efforcer de comprendre avec précision la quantité de joyaux afin de révéler de cette manière l'amour dans son propre cœur également. L'amour originel n'est pas affecté, car même sans recompter les joyaux, ceux-ci lui sont déjà parvenus en tant que don, ou se trouvent en sa possession. Mais pour pouvoir rendre quelque chose plus qu'il aime, il touche les précieuses pierres encore et encore pour avoir ainsi la possibilité de lui montrer sans cesse sa grande mesure d'amour. De cette manière, les sentiments d'amour vont toujours de l'un à l'autre et se multiplient, tandis que l'essence elle-même ne change pas. C'est le sens de l'acceptation de différentes combinaisons. Bien que l'essence reste la même, de nouvelles combinaisons apparaissent à chaque fois que l'œil humain n'a jamais vu. Et tout cela pour ne pas perdre ou souiller la moindre étincelle des forces cachées qui existent toujours potentiellement dans chaque matière et peuvent révéler. Ainsi, la matière goûte toujours une nouvelle saveur et s'efforce de la répéter pour toujours et à jamais. C'est comparable aux nombreux repas que la matière veut doubler en souhaitant que cette forme se multiplie ou au accouplement, car il y a toujours de nouvelles saveurs. Je ne sais pas, qu'est-ce qu'il faut faire. Si on revient sur les mêmes actions, si on répète les mêmes actions, le désir change chaque fois. Donc, on arrive à de nouveaux discernements. Toujours d'autres saveurs. Vous comprenez maintenant l'association de la matière dans un corps et une âme. En raison de la matière qui est enracinée dans l'oubli, et pire encore, en éteignant toutes sortes d'amour absolu, par cela, elle donne à l'âme de la place pour un travail obligatoire, c'est-à-dire pour revenir dans des combinaisons différentes à chaque fois. Sinon, le défaut atteindra aussi l'âme à cause du masque dans les racines de la matière mentionnée. Même si l'amour lui-même est parfait et complet, il est apparemment couvert à cause de la matière. En étant obligé de revenir et de répéter les ajouts, augmente au-delà du fond et les limites de l'amour s'étendent merveilleusement.
que beaucoup de un grand public. Moi, j'ai compris que le travail, la clipa d'Égypte et ensuite d'autres exemples, d'autres clipotes pour plus tard, quand, pendant l'amour, on pourra agrandir l'amour. Oui. Qu'est-ce que ce travail? Pourquoi il faut la clipa pour agrandir l'amour? La clipa nous permet de communiquer l'amour. Et par l'amour, on est attiré à révéler cette structure. Klipa, Gdusha. Pourquoi, s'il n'y a pas de klipa qui permet d'agrandir l'amour, on ne peut pas l'agrandir, l'amour? C'est ce qui manque, la klipa, pour la forme entière de l'amour. Pourquoi? Pourquoi pas agrandir l'amour comme ça, sans infiniment? C'est pas possible sans fin, sans limite. Il te faut une écorce pour dessiner la forme de l'amour entièrement. C'est quoi que ce phénomène dans la nature? On ne peut pas agrandir l'amour s'il n'y a pas de klipa. On voit que dans chaque forme qu'on révèle dans la nature, il y a la forme opposée. C'est impossible de parler d'un phénomène s'il n'a pas l'opposé. Comment ce principe peut aider quand on est uniquement là pour agrandir le manque, les clips? C'est pour le futur, même qui que c'est. On ne peut pas travailler avec un discernement si on n'a pas l'opposé. Le Baal Soulam nous parle de l'importance, la nécessité des discernements. C'est écrit qu'on a, on rassemble tous les kélim pour plus tard avoir ce qu'il nous faut. Ce qu'il appelle sans défaut et ainsi de suite. Alors, comment on peut recevoir des forces aujourd'hui? On fait quelque chose, un travail qui sera tout au long du chemin jusqu'à l'amour. Quand même, on travaille tel que le Baal Soulam nous dirige. Toute chose qu'on révèle vient de l'opposé et pas autrement. Sinon, on n'aurait pas pu le ressentir. L'avantage de la lumière, l'obscurité, donc, sans révéler l'obscurité, on ne ressent pas la lumière, et ainsi de suite. On arrive à la révélation entière. On ne peut même pas imaginer à quel point, si on n'aurait pas la forme opposée, on n'aurait pas pu voir ce qu'il y a devant nous. La spiritualité se révèle une grande révélation.
Il
écrit qu'il y a une règle. Si un aime entièrement de bien-aimé, alors l'autre perdra toute la force d'amour. Pourquoi on aime l'autre à part L'amour s'éteint. Il n'a pas de place pour révéler son amour parce que tout est rempli de cette perfection d'un côté. Alors comment laisser de la place à l'autre pour aimer? Le Créateur est dissimulé, c'est fait. Pourquoi, quand on reçoit de l'amour, ça ne motive pas à aimer? Parce que d'abord, il faut arriver à cette compréhension, c'est-à-dire entre les amis. Comment il faut faire? D'une part, donner l'amour, et en même temps, je ne sais pas, comment, selon cette règle, quelles sont les relations entre nous alors? Entre les amis, on doit révéler l'amour entièrement, dans tout sens, toutes les mesures. Mais alors, si on fait ça entre les amis, réaction, on doit attendre que l'amour augmente ou qu'elle s'éteinte. Je ne peux pas l'expliquer peut-être, mais si on est attiré à la connexion complète entre nous, chacun est capable de compléter cette attitude envers les amis, on arrive un état où nous tous donnons de la place à tous les autres et en même temps on se complète. C'est quoi un espace pour l'amour? Un manque. Et quand on aime les amis, chacun a sa place. Ils doivent révéler, travailler. Je dois de leur donner un espace pour cet amour. Comment? Tu montres ton amour et que tu attends d'eux aussi. Tu veux ressentir son amour. Mais selon cette règle, si je l'aime, son amour ne va pas s'éteindre. Non. On arrive à grandir l'amour infiniment et sans arrêt. Sans maîtriser cet amour. Entre nous, il faut organiser de telles relations. Mais on est obligé d'aimer toujours les amis sans arrêt. Et quand on l'enveloppe comme ça d'amour, lui n'a pas peur de perdre cet amour. Alors il ne remarque même pas. Continuez. Plus il néglige, méprise, et encore, il y a des règles, mais nous, on doit y arriver pour le voir. Quelles règles? Finalement, tu passes à... Tu traverses une certaine limite et l'ami commence à comprendre, reconnaître ton amour et réagir.